Nous sommes le lundi 20 février 2023, il sonne 11h et nous nous saluons, nous au studio, les techniciens, vous les auditeurs, que ce soit sur les antennes de Canal FM ici à Lomé ou Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Lumière à Nero, où tous les médias numériques qui nous relaient de par le monde entier, nous nous saluons dans une chaîne de solidarité. Vitogbe Kokou Michel, Tomega et Gérard Kodjo Akucha aux différentes manettes techniques. Arim Yaou Tchanyaou de Nouvelle Opinion, bonjour.
Oui, bonjour. Ça, c'est bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à tous.
Notamment à tes parents de la région de Centrale qui nous écoutent actuellement.
Oui.
Laquelle région Centrale accueille le forum des producteurs agricoles en fin de semaine.
Oui, tout
nous
à fait.
Nous allons en parler. Deuxième invité, Didier Komi Asogba de Togo Breaking News. Bonjour.
Bonjour Sass et bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Bonjour à mes aînés en studio et bonjour aux parents qui nous écoutent depuis tous les cantons, je veux dire, de la préfecture de Yoto et tous ceux qui nous écoutent un peu partout, la diaspora, Yoto, un peu partout à travers le monde.
Aîné dont Jacques Djakouti qui connaît le Yoto comme sa poche. Jacques, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Bonjour à mes frères de Dapaon, précisément ceux de Borgo.
Merci. Eh bien, au menu du Club de la Presse aujourd'hui, nous allons parler de la presse togolaise en mutation, avec ses défis et ses opportunités. Nous allons également visiter le Togo dans les agendas internationaux. Les derniers jours ont été très intenses en activité internationale à Addis Ababa pour la 36e conférence au sommet de l'Union africaine. Addis Ababa a choisi la CEDEAO pour un sommet extraordinaire. Le Togo y était, tout comme le Togo a délégué un de ses émissaires à la conférence de Munich, qui a planché sur les questions de sécurité. Et puis nous allons revenir ici au Togo, terminé par des informations au pays. Le forum des producteurs agricoles qui se déplace dans la région centrale du jeudi au samedi prochain. Également quelques axes de la coopération, notamment avec quelqu'un qui a été bien présent sur la scène de coopération au Togo. Il s'agit de Aliou Dia. Il a connu le PND, il a connu la feuille de route gouvernementale. Il a connu les plans de riposte à la COVID-19 et au terrorisme. Il fait ses adieux au Togo. Le Club de la Presse va lui souhaiter bon départ du Togo, comme le Togo qui mène les consultations pour un nouveau partenariat pour le développement. L'Assemblée nationale a rencontré la Banque mondiale en fin de semaine dernière pour en parler aussi. Voilà le menu du Club de la Presse. Mais Harry Miaou, Didier et Jacques, vous le savez sûrement qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 février, 20 février qui est choisi depuis 2009 comme la journée mondiale de la justice sociale. Donc nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la justice sociale et à l'occasion, l'acteur Leonardo DiCaprio nous donne la pensée du jour qui enseigne que ou bien qui fait le constat que, Jacques, nous vivons dans un monde où le plus n'est jamais assez, où l'opportunisme et la cupidité se généralisent.
Je suis parfaitement d'accord avec lui. Ça, vous savez, aujourd'hui, le monde tend de moins en moins la main. Et le monde supporte également de moins en moins, également les populations. Ce que nous constatons aujourd'hui, les plus riches n'arrivent pas à supporter les faibles. Les faibles sont là, sont en train de mourir. Mais il faudrait aujourd'hui, comme la pensée du jour l'a si bien dit, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse tendre la main associative vers les faibles. Et pour ceux qui sont tombés, qu'on puisse effectivement les relever. Parce qu'il faut reconnaître que les situations actuellement, que ce soit dans le monde entier, est une situation dure et compliquée.
Eh bien, journée mondiale de la justice sociale, Didier Assogba, c'est un constat. Dans tous les pays, hein, le nombre des plus riches se rétrécit de plus en plus, alors que de moins en moins de personnes qui disposent de plus en plus de richesses nationales au détriment de la grande majorité. C'est un constat partagé hein, dans le monde entier. La semaine dernière, c'est la Suède même qui avait défrayé la chronique. Ce pays qui était connu pour un pays assez social, même en Suède, de moins en moins dispose de plus en plus hein, de richesses nationales. Et ce qui coïncide si bien avec ce que nous dit Leonardo DiCaprio, que nous vivons dans ce monde où le plus n'est jamais assez, où l'opportunisme et la duplicité et la cupidité se généralisent, ceci au détriment de la grande majorité des humains.
Oui, c'est juste dommage que le monde soit arrivé à ce stade-là, on voit aujourd'hui un peu partout à travers le monde et dans la plupart de nos pays, les riches qui s'enrichissent de plus en plus et les pauvres, par ricochet, qui s'appauvrissent de plus en plus, et il y a moins de classe moyenne dans la plupart des pays, et la classe des riches continue de se rétrécir, comme tu l'as dit, et les riches qui ne veulent pas voir d'autres s'enrichir et qui continuent d'exploiter la misère et la pauvreté des autres. Ici, chez nous, ici, j'emprunterai cette citation à quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a dit qu'une minorité s'accapare de la richesse du pays au dépens de la grande majorité qui continue de ploire sous le poids de la misère. Et donc ça, quand vous caricaturez et vous voyez à peu près ce qui a été, cette déclaration-là qui a été faite il y a à peu près plus de 10 ans maintenant, et la réalité dans le monde aujourd'hui, un peu partout à travers le pays, c'est assez dommage. Vous prenez même le classement des milliardaires qu'on fait chaque année, et vous voyez un seul individu est plus riche que plusieurs pays ou tout un continent réuni. Et donc c'est assez ahurissant aujourd'hui, et il faut qu'on appelle à l'humanisme même des riches, parce que comme notre auteur le dit, le plus ne sera jamais assez. C'est-à-dire que quand vous continuez à magasiner des choses, vous allez avoir l'impression que ce n'est jamais assez. Ça ne va jamais vous suffire. Et naturellement, quand on parle de l'argent, ça ne suffit jamais à personne. Mais la meilleure des choses que nous pouvons faire dans le monde aujourd'hui, c'est de tout faire pour que l'humanisme prévaut dans nos actions, et que si nous pouvons, si cela dépend de nous et que nous avons la possibilité et les moyens, nous puissions nous supporter les uns et les autres autour de chez nous. Si nous avons de l'eau dans nos robinets, que nous puissions partager à ceux qui sont à côté de chez nous dans les maisons. Si nous avons de la nourriture en abondance, que le lendemain nous n'avons pas pu manger la nuit dernière, que nous allons jeter le matin, que nous puissions donner à ceux qui sont autour de nous, je pense que c'est seulement en ce tact que nous allons pouvoir bâtir le monde. Et Dieu bénisse ceux qui quand même continuent de faire, merci, malgré leurs maigres moyens. Des gens, je connais des gens, je peux citer, mais je m'empêche de les citer à la radio. Mais il y a quelques personnes quand même qui essaient, ils n'ont pas assez, mais ils essaient de partager le peu de grâce qu'ils ont avec les autres, que Dieu les bénisse.
À ceux-là, il faut leur rappeler que une sagesse nous dit que ce qu'on garde pour soi pourrit, alors que ce qu'on offre aux autres fleurit. Mais pour ce qui est de la justice sociale, Harry Miaou, nous convenons que des États où aux individus, il y a quelques minorités qui s'accaparent des richesses mondiales, continentales, nationales, alors que l'une des pierres angulaires de la paix sociale, c'est justement qu'il y ait une certaine justice sociale.
Oui, moi je crois que on célèbre une journée, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans la célébration de cette journée? Vous avez entendu ce que Djakouti a dit, ce que mon jeune frère Didier Assogba a dit, vous-même. Et les gens sont conscients qu'il y a des inégalités, qu'on n'a pas besoin d'une loupe pour voir. Tout le temps, je l'ai dit à la radio ici, il y a des gens qui sont aigres envers moi, parce que parfois j'ai dit que vous pouvez regarder un peu à Lomé. La même personne, elle a une maison à Baguida, elle a une grosse maison à Koué, elle en a partout. Finalement, on veut donner l'impression qu'on veut narguer le reste de la société. Parce que quand vous avez plusieurs voitures, des individus qui ont des parcs auto individuels, à la maison, vous voyez comme si ça, c'est dans un garage auto ou c'est au parc auto du port autonome de Lomé. Mais à voir, c'est des voitures de luxe pour un seul individu. En réalité, si on célèbre des journées comme ça, il faut même chercher ces gens-là. Parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Je vous assure que le terrorisme même prend sa source en ces inégalités-là. À partir du moment où, dans une même société, certains mangent la viande, d'autres ont même envie de trouver les têtes de petits poissons d'œufs, ils n'en trouvent pas. Et les gens qui sont comme ça sont fiers. Vous allez regarder que dans nos sociétés, ceux qui ont l'argent sont heureux de voir que tout autour d'eux, ça ne va pas. Ils sont très heureux de voir que les autres sont soumis, parce que c'est cet argent-là qui leur permet d'avoir les autres devant et de les voir tous les jours croiser les bras, de les appeler patrons. Même quand ils sont petits, on les appelle chefs. Quand ils sont petites, on les appelle patronnes. Donc, ils sont heureux.
Maintenant, il y a une nouvelle appellation maintenant, c'est maman.
Maman, oui, mais des gens qui sont sous nos pieds, qui sont petits, on les appelle maman. Ils sont heureux. Ils s'enorgueillissent comme ça et croient qu'on peut continuer. Moi, je voulais dire que quand on célèbre de ces journées-là, que les gens prennent la mesure de faire comprendre à ceux qui le font. Puisque tout le monde les regarde, les gens savent. Hein. Les gens savent ceux qui bloquent. Moi, je n'ai pas de l'argent, mais quand j'en ai un peu, je partage. Je le dis à ce micro, quand j'ai 5 francs, j'ai mal de voir que quelqu'un a besoin d'un franc alors que j'en ai et que je ne le fasse pas. Donc maintenant, le monde évolue. Le monde a une autre vision aujourd'hui. Figurez-vous que hier, laissez-moi finir un peu ça. Hier,
fini quand même.
Nous n'avons pas les réseaux sociaux. Figurez-vous qu'aujourd'hui, la petite chose qui se passe dans un coin du pays ou du monde, l'humanité entière a ça. C'est de la même façon que demain, les gens peuvent même plutôt se rebeller, commencer par vouloir régler pour faire la justice sociale. Puisque s'il y a les inégalités qu'on constate et que les gens croient que on peut avoir la grosse carrosse, on sort, on rentre, on ouvre ce coffre, c'est les dollars. On ouvre l'autre, ce sont les yens. On ouvre par ici, c'est les euros et puis on est content, on s'enferme. On va mourir les laisser. Je connais des gens merci, qui sont morts. L'argent est resté. Ceux qui ne veulent pas avoir mangé, les mangent.
Nous sommes.
Il faut que d'eux-mêmes, ils décident. Dans certaines préfectures, on a dit qu'il n'y a pas l'eau.
Merci
les gens ont la mesure de donner l'eau à plusieurs villages, ils ne le font pas.
Oui.
Donc, que ces gens-là sachent que les regards sont tournés vers eux.
Le 20 février, décrété journée mondiale de la justice sociale et la justice sociale, l'un des facteurs de paix sociale.
Mais ça, vous savez, dans un pays, il faudrait quand même qu'on puisse avoir les riches intermédiaires. Lorsqu'il n'y a pas les riches intermédiaires...
La classe moyenne.
Bien sûr. S'il n'y a pas ces riches intermédiaires-là, je vous dis que nous aurons toujours des problèmes. Parce que le vol va se multiplier. Les attaques vont se multiplier. Ça, il faut le reconnaître. Les gens qui prennent, par exemple, le taxi peut-être de Kilkame vers Assigamé, les gens vont chercher à les dérober. Non, c'est pour vous dire que quelque part,
c'est
comme on l'a dit, il faudrait qu'on puisse créer cette classe-là. Parce que si on ne crée pas cette classe, ça, je vous dis, nous aurons des problèmes.
Merci. Et peut-être que la classe moyenne que tu appelles de tous les voeux peut être renforcée par le monde de la presse si nos médias arrivent à devenir de véritables sociétés de presse. Mais pour introduire ce sujet, Jacques, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à l'un de nos confrères. C'est le journal Le Correcteur qui a commencé à paraître en 2008 et qui célèbre son jubilé de cristal. 15 ans déjà, c'est le titre qui s'étale à la une de Le Correcteur. 15 ans de présence pour un journal écrit, Jacques.
Vraiment.
Tu as fait quelque chose. Tu as présidé les associations professionnelles de presse.
Félicitations au journal Le Correcteur, à son fondateur que j'ai connu, Olivier Gakwe, qui a cédé actuellement la direction à notre confrère Honoré Adantu. Je crois qu'ils sont en train de faire un travail excellent. Il faudrait aujourd'hui, comme vous avez bien introduit le sujet, En parlant également, nous avons constaté que avec le nouveau code qui est mis en branle
de la presse de la communication,
nous avons vu que des aspects pourront effectivement aider cette presse. Mais il faudrait qu'on puisse mettre effectivement en valeur ce qui se passe par rapport à l'aide qu'on doit apporter à cette presse. Certains n'ont pas paru aujourd'hui. Vous savez, peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse accompagner cette presse. Vous avez fait l'introduction par rapport à la justice sociale. La justice sociale également invite aujourd'hui à soutenir les faibles. Parce que les journalistes sont en train de faire un travail extraordinaire dans ce pays. Vu l'information, l'éducation, la formation que ces journaux-là apportent, et que ces radios apportent, la presse en ligne apporte, les télévisions apportent dans ce pays. Il faudrait, il faut pas seulement que les gens se disent que c'est le rôle de l'État d'accompagner cette presse. Il y en a qui sont là, des sociétés qui sont là, qui ont les moyens, qui peuvent accompagner cette presse. Hier, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire sur les réseaux sociaux où on disait que l'entreprise Ebomaf accompagne un club au niveau de l'intérieur du pays. Un club de football, c'est-à-dire que précisément Asco de Kara, où Ebomaf a habillé Asco de Kara, le jeu qu'ils ont eu à livrer hier. Quand vous voyez, par exemple, les t-shirts qu'ils ont portés à l'effigie...
Ebomaf sponsorise
justement.
Asco de Kara.
Ouais, donc, c'est vraiment c'est une très bonne chose. Il y a des sociétés qui pourront également soutenir Nouvelle Opinion, Liberté, Alternative, Canal FM, beaucoup de médias. Et Togo Breaking News. Il y a des gens qui peuvent le faire. Donc, je crois que la société, la justice également sociale, doit également passer par là. Donc,
merci.
Une fois encore, joyeux anniversaire
au correcteur
pour le travail qu'ils sont en train de faire.
Merci. Asco, qui, soit dit en passant, qui a été un peu lessivé hier à Rabat. Ils ont perdu 1-5 dans ce match de poule de la Coupe CAF. Mais ils seront rebondis. Un vrai condamnant, c'est toujours terrasser son adversaire. À moins que ce ne soit pas de vrais condamnants qu'on a. Eh bien, revenons donc à la presse. Harry Miaou et Didier avec, comme je l'ai dit, la presse togolaise, nous nous retrouvons dans une certaine mutation. Le nouveau code de la presse de la communication voté en janvier 2020 est entré en vigueur depuis le mois de janvier 2023 avec des obligations qui sont faites aussi bien aux patrons de presse que vous êtes qu'aux journalistes professionnels, animateurs, même jusqu'aux techniciens. Maintenant, il faut avoir une certaine qualification intellectuelle, technique, professionnelle. Il faut justifier son dossier. La preuve, tous les journaux qui existent depuis ont été amenés à reproduire de nouveaux dossiers de presse. La HAC a rendu public il y a quelques semaines les 65 journaux qui sont en règle avec les nouvelles dispositions. Nouvelle Opinion en est, j'en suis heureux. Les médias en ligne aussi, Togo Breaking News aussi en est. On nous annonce courant cette semaine une rencontre que la HAC aura avec les promoteurs des médias audiovisuels, télévision et radio. Et c'est là qu'on saura également les radios et télévisions qui sont en phase avec la loi. Mais c'est les sociétés de presse maintenant font face à des défis. Les médias doivent disposer d'un siège en bonne et due forme, doivent déclarer leur personnel à la sécurité sociale. Et il y a la nouvelle convention collective qui va entrer en vigueur incessamment. Mais entre-temps, le SMIG est passé de 35 à 52 500. Didier et Harry Miaou, voilà autant de défis, mais à côté également d'opportunités auxquelles le monde de la presse togolaise doit faire face.
Oui, je crois que aucun d'entre nous ne peut aujourd'hui dire qu'il ne connaissait pas ou qu'il ignorait là où le nouveau code nous amenait. Vous avez vu que depuis la semaine dernière, il y a eu la liste avec 65
journaux écrits
et
les médias en ligne.
Les médias en ligne,
vous êtes combien?
Je n'ai pas le nombre en tête.
Moi, ça va être dans 70 quelque chose.
On va trouver le nombre.
Autour de 72, qui sont aussi les règlements, les considérés comme les journaux qui sont reconnus comme tels au niveau de la HAC. Il y a eu des incidences, quoi qu'on dise, parce que les nouvelles orientations demandent que pour être directeur de publication, il faut être journaliste, nanti d'un diplôme professionnel. Et beaucoup ont perdu ce titre de directeur de publication ou se sont vus aujourd'hui devenir de simples ou bien de promoteurs de journaux. Et cela, nous le trouvons un peu très bien, a priori, parce que ne peut être médecin que quelqu'un qui est sorti d'une école de médecine, ne peut être menuisier que celui qui a appris la menuiserie, ne peut être maçon que celui qui a appris la maçonnerie. Quelqu'un peut créer toute une entreprise de construction de bâtiments sans forcément être maçon. Et je crois que c'est ce qui a été régulé au niveau de la presse. Mais il y a un problème qui se posait que jusqu'à présent nous sommes en train de relever. Parce qu'il y a des gens qui font, par exemple, 22 ans, 25 ans de carrière en tant que journaliste professionnel, à qui tout le temps on a déjà délivré les cartes, et qui sont aujourd'hui contraints de se recroqueviller pour devenir promoteurs et céder la place à ceux-là qui sont nantis de diplômes et qui sont sortis effectivement de ces écoles de journalisme. Donc là se pose un problème que nous pensons qu'on peut peut-être, chemin faisant, trouver à corriger. Mais avec le nouveau code, nous avons à la fois des avantages, mais beaucoup plus d'inconvénients pour nous. Aujourd'hui, sur votre table, vous avez vu qu'il n'y a pratiquement aucun des nôtres qui a paru. Même s'il y en a, c'est rare. Vous allez sentir que depuis là, les paritions se font rares. Ce n'est pas aisé. Je voudrais que l'opinion qui nous suit, que les gens comprennent que pour sortir un papier, un journal papier, vous n'êtes pas dans moins de 200 000. Ça veut dire que chaque semaine, si vous êtes un hebdomadaire, vous devez pouvoir, pendant que vous nourrissez les vôtres à la maison, pendant que vous avez toutes les charges de famille, pouvoir mettre de côté un 200 000. Alors que, est-ce que nous vendons? Est-ce que les gens achètent? Les gens se font la passe. On prend un journal, s'il est intéressant, s'il y a des trucs qui intéressent, et tout, plus de 1000 personnes se l'échangent. Donc il y a de ces difficultés qui continuent par être là. Et qui a ce côté où les publicités, les annonces se font très rares. Effectivement, vous l'avez dit, Djakouti a dit tout à l'heure que ce n'est pas tout le temps que nous trouvons des annonceurs à nos côtés. Et qu'il a évoqué Ebomaf, qui s'est porté à accompagner les condamnats. De la même façon.
Le club Asco de Carré.
Le club Asco, oui. C'est comme ça on les appelle également, non? Les condamnats. Donc, Asco a eu peut-être quelqu'un qui l'accompagne. Mais est-ce que les journalistes togolais, nous sommes là, on fait l'effort de nous produire, de faire tout pour intéresser les gens. Est-ce que les gens savent qu'il faut nécessairement également nous accompagner? Je m'en doute. Mais ce que nous disons aujourd'hui, il y a quelque chose de très fondamental que nous, au niveau des patronats, nous attendons. Nous avons volontiers accepté de signer la convention collective. Et je rappelle ici qu'à mon temps, quand j'ai été élu, j'ai dit que si je finis mon mandat, sans qu'on signe la convention collective, sans qu'on se formalise, pour ressembler à tous les autres corps de métier, je dirais que j'ai échoué ma mission. Nous l'avons fait. Mais au même moment, je lance un appel. Forcément, au niveau de ceux qui nous dirigent, parce que c'est ensemble avec eux que nous sommes entendus sur le fonds d'aide à la presse.
Oui.
Et ce fonds a été voté par décret. Et il se retrouve bien logé dans le code, dans le nouveau code. Mais je voudrais qu'on commence et qu'on fasse tout. Pendant que nous évoluons aux réformes qu'on nous exige avec le code, qu'on trouve les paramètres qu'il faut respecter pour mettre ce fonds-là, merci. Parce qu'il contribuera à nous lancer, à nous propulser, pour que nous puissions nous conformer aux nouvelles dons.
Écoute, René, c'est rappeler que c'est une nécessité que la presse togolaise évolue pour être beaucoup plus professionnelle, de véritables entreprises de presse comme nous aimons en citer de par le monde entier. Il y a la disponibilité exprimée par l'État, mais il y a également de réels défis pour que nous saisissions ces opportunités et que des titres togolais, que des titres de la presse togolaise soient cités en référence dans le monde entier.
Oui, je pense que tout est une question de volonté politique aussi. Affiché. Il suffit pas, à mon avis, de lancer des réformes, de faire voter des textes et de déterminer un certain nombre de choses à respecter, à faire, et puis c'est tout. Pour ma petite expérience que j'ai faite dans la presse.
Que tu continues de faire.
Oui, que j'ai faite et que je continue de faire depuis bientôt 14 ans dans la presse. On ne peut pas faire un média sérieux s'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de média véritablement sérieux, crédible, tout ça, s'il n'y a pas d'argent. Quel que soit ce qu'on peut raconter, mais c'est de l'argent qui permet de faire une presse de qualité, une presse de haute facture, comme tu le dis, et souhaite, si on veut véritablement aujourd'hui, qu'un journal togolais soit véritablement connu à l'international, soit lui et tout ça, vous voyez les jeunes Afriques, tout ça, qui sont appréciés et tout, c'est parce que les jeunes Afriques, ils ont les moyens des palais, généralement africains un peu partout, et ils arrivent à faire des papiers de haute facture, même des fois si c'est pas de la vérité, mais la façon même de l'habiller, d'écrire l'information et tout ça, ça vous permet ou vous avez, ça vous donne envie de venir lire et de toujours aller vers Jeune Afrique ou d'autres encore, RFI et tout ça. On voit tous les procès qu'on fait à RFI et tout ça, mais tout le monde, chaque fois qu'il y a des occasions, tout le monde va suivre RFI et tout parce que vous avez l'impression que c'est là-bas qu'il y a de la qualité et de l'impression. Parce que l'État français a mis les moyens dans RFI. Et donc je pense que même si on veut parler des journaux privés, si on veut parler des journaux, il y a le public, il y a le privé, je veux croire que c'est parce que des gens soutiennent le secteur privé, des gens acceptent des partenariats privé-privé, des partenariats entre hommes d'affaires dans le privé, et que de grandes entreprises, vous avez cité un exemple, je ne veux pas revenir dessus, mais d'autres soutiennent, décident de soutenir, par exemple, Canal FM, vous allez voir, on va changer le bâtiment ici, on va changer le studio, les équipements et tout, et quand vous écoutez Canal FM, si on vous dit, c'est une radio du Togo, vous n'allez pas croire. Ça va être la même chose pour Nouvelle Opinion demain, s'il y a un mécène derrière, qui donne véritablement les moyens. Il y a déjà de la potentialité dans la presse togolaise, Dieu seul sait combien de journalistes togolais ont de la compétence, qui ont fait de grandes études. Des gens ont fait de grandes études. Ça, si vous êtes un enseignant de haute facture, vous avez formé beaucoup de cadres togolais avant d'être ici aujourd'hui, personne ne peut dire que vous n'avez pas la qualité. Ce qui manque à tous les journalistes togolais aujourd'hui, c'est les moyens. Et il faut que les bonnes volontés, à commencer par l'État, je vais terminer dessus, à commencer par l'État, commence par mettre les moyens, et surtout, dans le nouveau code de la presse et de la communication, on a parlé du fonds d'aide à la presse, au développement de la presse, oui, tout ça, mais il y a également d'autres aspects dans le nouveau code que l'État doit mettre en pratique, notamment les détaxes sur le courant, sur le téléphone, sur l'eau, sur les papiers, sur l'Internet, sur les coûts d'appel téléphonique et plein d'avantages qu'on doit aujourd'hui maintenant nous accorder pour nous permettre, tant que nous nous conformons au texte également,
nous avons besoin de moyens pour exceller, des moyens publics, des mécènes et autres, mais également, et nous le savons, nous avons aussi le défi de plus de professionnalisation de notre secteur, de plus de spécialisation, et que quand nous allons exceller davantage, nous allons sûrement accrocher cette bonne volonté que nous appelons de tous nos voeux. Nous allons maintenant vers les agendas internationaux. Ça a été bien riche, hein. Depuis jeudi, vendredi, jusqu'à hier, dimanche, de Addis Abeba, en Éthiopie, pour ce qui est de la 36e conférence au sommet de l'Union africaine, et occasion saisie par les pays de la CEDEAO pour tenir un sommet extraordinaire. Le Togo était sur les deux fronts, lequel Togo était également à Munich, lors de la 59e conférence sur la sécurité. Didier, j'ai lu des papiers de Togo Breaking News, aussi bien sûr à Addis Abeba que sur Munich. Et là, les sujets qui ont été au menu à la CEDEAO, à l'Union africaine et également à Munich se recoupent presque.
Oui, se recoupent presque. Il s'agit notamment des sujets liés au Sahel, notamment les sujets en lien avec le terrorisme, la situation qui prévaut notamment au... Bon, quand on parle du Sahel aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, la situation qui prévaut au Sahel nous touche aujourd'hui également le Togo. On a parlé donc du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme et ces groupes extrémistes violents qui continuent de sévir, notamment au Mali, au Burkina Faso, chez nous, un peu partout. Donc Addis Abeba a été l'occasion d'en parler, notamment dans le cadre global continental qu'est l'Union africaine. Et si on parle spécifiquement de ce sommet-là de la CEDEAO. Ils en ont également parlé. Peut-être qu'on va revenir sur les détails du sommet de la CEDEAO. Mais sur la conférence de Munich a été une occasion, et effectivement, pour les dirigeants, pour les, tous ceux qui sont, ont participé à cette conférence également, d'évoquer la situation dramatique qui sévit au Sahel et de faire le constat de ce que le soutien dont ont besoin les pays du Sahel, ils l'ont pas eu depuis le début de cette affaire de terrorisme qui est devenue aujourd'hui un problème pour la sous-région qui touche les pays côtiers, dont le Togo. Le ministre togolais des Affaires étrangères était à cette conférence-là et où il a véritablement parlé de l'action du Togo et de ce qu'il faut faire naturellement pour le Sahel. Il est également revenu sur ce chantage-là que font les grandes puissances aux pays africains avant de le soutenir. C'est-à-dire, il y a une guerre en Ukraine, vous devez forcément être avec les puissances occidentales. Et le ministre Doucet leur a clairement dit que les Africains ne veulent pas être, il a dit baby dog en anglais, donc ne veut pas être un chiot pour les puissances, qu'elles soient de l'Est, qu'elles soient de l'Ouest, et que les Africains veulent rester eux-mêmes et que des gens doivent intégrer cette dimension dans les nouveaux paradigme de développement, et ils ont également convenu qu'il faut naturellement soutenir l'Afrique et surtout le Sahel pour lutter contre le terrorisme et vaincre les groupes extrémistes qui sévissent jusqu'à chez nous désormais.
Eh bien, à Munich, hein, il s'agit donc de parler de sécurité dans ce contexte que vendredi prochain, ce sera le premier anniversaire de cette guerre d'invasion que la Russie mène en Ukraine, et on voit toute l'armada occidentale se portait au secours de l'Ukraine. Mais pendant ce temps, le Sahel, le pauvre Sahel, qui croupit sous les menaces de la sécheresse et des agressions terroristes depuis des années, nos pays, le Mali, le Burkina, le Niger, et maintenant depuis quelques temps, les pays côtiers, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres, qui connaissent ces coups de botte, mais l'Occident n'est pratiquement pas présent. Voilà, c'est nous parlons tantôt de justice sociale. Ça aussi, y participe. Harry Miaou.
Non, mais moi, je crois que les Africains eux-mêmes se font harakiri. Quand, par exemple, la reine Elisabeth II était décédée, vous avez vu ce qui s'est passé?
Oui.
Il y a des chefs d'État africains, pas des moindres, qui sont partis de ce monde. Vous avez vu quelque chose? Rien. Nous-mêmes, on ne travaille pas à nous valoriser. L'Africain ne veut pas se donner cette valeur, cette fierté. On a beau crier dans les grandes conférences, l'Afrique veut être ceci, l'Afrique veut être autonome, l'Afrique veut ceci, mais l'Afrique n'a jamais cessé de demander. Et je vous assure, ici à ce micro, que la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Si je vous donne, vous dépendez de moi, je vous ordonne, vous allez exécuter. Vous avez ces inégalités, c'est de ça que je parle. Nous-mêmes, on les cultive ici. Nous sommes chaque jour en train d'arroser le jardin des inégalités sociales. Et vous pensez que quand on va sortir de chez nous, de l'extérieur, les gens vont nous regarder? Non. Quand un seul meurt en Amérique, quand un seul meurt à un front quelque part, vous voyez ce que nous-mêmes, Africains, nous faisons? On s'y intéresse à gros niveau. Mais quand les gens meurent chez nous ici, on n'a pas pris l'habitude de converger le monde vers les choses malheureuses donc, qui se passent en Afrique.
Je veux dire là que c'est nous-mêmes Africains,
c'est nous-mêmes
qui excellons
à nous
comporter comme des baby dogs. Ce que Robert Doucet semble déplorer à Munich, mais c'est comme ça
oui,
que les États se comportent.
Qu'on ait le courage de le dire. Au Sahel, combien de gens de l'Occident sont venus? Mais quand ça se passe en Ukraine, combien de chefs d'État, combien d'émissaires africains ne sont-ils pas allés là-bas pour voir comment faire pour amener la paix? Mais vous parlez du Sahel, qui s'y intéresse? Qui s'y intéresse? Est-ce que les Africains fabriquent des armes? Est-ce que nous avons les munitions? D'où est-ce que tout ça la sort? Moi, je crois qu'il y a des questions sur lesquelles on ne va pas glisser, mais pour le moment, l'Afrique commence par s'éveiller. Moi, je crois que nous sommes à une époque de l'éveil des Africains. Et les Africains qui sont en train de s'éveiller doivent savoir les vrais problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes. Les corriger en interne avant de commencer par crier au plan international. C'est vrai, les Africains veulent qu'on les respecte. Ils n'ont pas encore cessé de demander. Quand il y a la famine dans un coin de l'Afrique, c'est pas l'Afrique qui donne à manger dans ce coin. C'est le reste du monde. Ceux-là que nous voulons qu'ils nous respectent. Nous avons parlé des inégalités. Si c'est moi qui nourris un certain nombre d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vit dans des milieux où nous avons dit qu'on appelle les gens maman, qu'on appelle les petits garçons papa, qu'on les appelle patron, qu'on les appelle même excellence si cela se vaut, même s'ils ne sont pas ce que nous disons. Mais ils sont fiers. Les blancs également sont fiers de nous avoir, de nous voir tout le temps croiser les bras devant eux, pour qu'ils puissent venir nous aider, parce que nous-mêmes, nous continuons par demander.
Merci.
Voilà un peu ce que je veux dire.
Jacques, revenons oui. Donc à Addis Abeba, où il y a eu cette 36e conférence sommet de l'Union africaine, et nous savons que depuis quelques heures, le nouveau président d'exil de l'Union africaine, c'est Azali Assoumani des Comores, qui succède à Macky Sall du Sénégal. Et à cette conférence de l'Union africaine, on a parlé de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la SLECAF, qui est entrée en vigueur depuis 2021. Mais allons seulement à Flao ici pour savoir si nous traversons la frontière sans problème. Également, l'Union africaine est revenue sur la levée ou le maintien des sanctions contre les juntes militaires au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Les chefs d'État africains ont également parlé un peu de ce conflit entre la RDC et le Rwanda. Voilà pour l'Union africaine.
Vous savez, ça c'est un peu quand même dommage pour l'Afrique. Vous prenez même le siège de l'Union africaine. Qui a conçu le siège pour l'Union africaine? C'est la Chine. Aujourd'hui,
et on dit que la Chine finance a offert, que c'est un don que la Chine a fait à tout le continent africain.
Et qui finance le budget de l'Union africaine? Et qui finance le budget de l'Union africaine? C'est l'Union européenne.
Vous allez par exemple au Nigeria pour la constitution du chef de la CDAO. Qui finance?
C'est l'Union européenne.
La Chine.
C'est la Chine qui finance également. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez?
On peut continuer que c'est la Chine même qui construit le palais. Le palais de la présidence dans nombre de pays africains. Suivez mon regard.
Justement, vous vous rappelez du scandale.
Ils sont en chantier de réflexion.
Actuellement.
Vous vous rappelez du scandale qui avait eu lieu entre-temps au sein de l'Union africaine, où on disait qu'il y a des caméras, des ordinateurs même. Lorsque, par exemple, les chefs d'État se retrouvent, tout ce que les chefs d'État là disaient, il y a un ordinateur qui enregistrait et qui essaie de traduire ce que les chefs d'État africains disaient en chinois et ça partait. Donc, c'est pour vous dire quelque part que, vous savez, nous sommes en servitude. Nous sommes pris en étau, au fait, en Afrique. Vous voyez ce qui se passe actuellement entre le Burkina, le Mali et la Guinée. C'est des choses qu'il faut vraiment louer. Je vous dis aujourd'hui, si le Mali, la Guinée et le Burkina réussissent à s'unir, mais je vous dis au revoir.
Ils sont en train d'aller vers une sorte
de fédération. Mais au revoir la CDAO. C'est fini pour la CDAO. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Qu'un pays comme le Burkina, un pays comme le Togo, un pays comme le Bénin soit attaqué tous les jours et qu'aucun chef d'État de ces pays-là a trop ne se retourne pour dire mais conjuguons nos efforts pour essayer d'éradiquer le mal qui est en train de ronger nos pays. Mais les gens sont là. On dit non, il faut attendre par exemple un budget qui va venir de quelque part, qu'il faut que l'Union européenne finance, il faut que telle la France nous aide. Mais qu'est-ce que vous voulez? La France a fait ses preuves au Mali. La France a fait ses preuves également au Burkina. On a vu hier seulement, ils ont plié bagages pour quitter. C'est parce que finalement, les gens ont compris que les gens là ne sont pas là pour les aider. L'autre aspect, vous avez suivi un peu la déclaration de Faki hier à la clôture
de la commission de l'Union africaine.
Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais cher président africain, les sanctions que vous imposez à ces pays-là, ces sanctions-là ne font rien à ces pays. Parce que du moment où vous les sanctionnez, les gens sont là à la fin du mois. Ils paient leurs fonctionnaires. Parce que à la fin du mois, ils paient par exemple les militaires. Là où les sanctions pourront par exemple créer des problèmes à ces pays, c'est quand ils n'auront pas les moyens pour payer les fonctionnaires, ils n'auront pas les moyens pour payer les militaires, et c'est là les gens vont se révolter. Mais finalement, les gens, ils arrivent à honorer l'engagement. Mais dites-nous, les sanctions arrivent à quoi? Il faut les lever. Mais finalement, vous avez vu que Mbalo, lorsqu'ils sont retrouvés au cours de la réunion du chef d'État, qu'est-ce qu'il a dit? Lui dit qu'il peut faire endurcir encore ses sanctions. Vous voyez, les Africains, Africains même. Vous voyez, si on ne change pas de mentalité, je vous dis, on ne va pas avancer. On peut tout, on peut bouder. On peut fendre même la tête de l'Africain pour mettre même les solutions. Mais ça ne marchera pas. Du moins, nous-mêmes, on ne sait pas où on va, ce qu'on veut. Mais attendons-nous. Regardez ce que Sarkozy a fait en Libye. Aujourd'hui, j'étais étonné qu'on dise encore, au cours de cette conférence, qu'on va organiser une conférence de paix, de réunification de la Libye. Qu'est-ce qui va marcher là-bas?
Et c'est le président congolais, Nguesso, lequel était déjà président de la commission, mais justement, impuissant quand d'autres étaient venus détruire la Libye.
Qu'est-ce qui va marcher, mes amis? Il faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, moi j'ai dit, prenons par exemple le cas du Togo. Ce qui se passe actuellement au nord, ça, je serai par exemple à la place du président Faure Gnassingbé. Je vais commencer par organiser les groupes d'autodéfense dans ces localités-là. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens-là viennent nous aider quelque part. Ça ne passera pas. Ils ne pourront jamais nous aider. C'est des gens qui seront là, qui seront en train de nous nuire. L'exemple atypique est là. Prenez le cas du Niger. Quand ils sont allés là-bas, la force Barkhane, la plupart des militaires qu'on a chassés au Burkina Faso, on a chassé également au Mali, ils sont retrouvés au Niger. Mais regardez de jour en jour comment les djihadistes là progressent. Non, c'est pour vous dire que ce ne sont pas des gens qui sont là pour nous aider, mais c'est plutôt les gens qui sont là pour nous créer des problèmes. Donc je crois qu'il faudrait que chaque État se prenne effectivement en considération, chaque État également se dise, il faut que nous puissions nous organiser en interne. Organisons-nous en interne pour pouvoir booster ceux qui sont en train de nous attaquer. Mais si on est là, on dit, bon, il faut que le Togo fasse une coalition avec le Burkina, fasse une coalition avec le Ghana, fasse une coalition avec le Bénin, jusqu'à quand ça va marcher? Ça ne marchera pas. Et on va s'attendre.
Merci,
on
sera en train de tenir une population. Je rappelle que le sommet de l'Union africaine a maintenu les sanctions contre les juntes militaires en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Un peu la même chose aussi, la CEDEAO, qui a également tenu un sommet extraordinaire à Addis Abeba, a débattu des transitions au Burkina, au Mali et en Guinée avec le maintien encore des sanctions. Mais la CEDEAO a également parlé des préparatifs des élections au Nigeria, ce sera le samedi prochain, mais des élections également en Sierra Leone et au Libéria. Et quand on sait les problèmes que les élections mal organisées, les élections non transparentes créent dans nos pays, alors Didier, si le Grand Nigeria connaît des élections prochainement, la Sierra Leone, le Libéria, est-ce qu'il n'y a pas raison d'être inquiet. Oui. Que les suites malheureuses de ces élections non transparentes viennent compliquer la situation qui n'est déjà pas rose.
Si, il y a des raisons de s'inquiéter et de se demander même à quoi sert l'existence de la CEDEAO. C'est la question que je me suis posée depuis ce week-end, parce que vous avez une organisation, quelle que soit façon elle a été fondée, on s'en passe, et revenons même sur son fonctionnement depuis quelque temps. Vous avez une organisation qui s'est dotée d'un protocole additionnel depuis 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, et qui a pris un certain nombre de mesures, notamment pour suivre les élections pour leur transparence, la bonne gouvernance dans le pays, et il y a même dans les tests de la CEDEAO, un mécanisme qui prévoit que si un pays ne gouverne pas bien, on peut sanctionner les dirigeants. Vous avez jamais vu la CEDEAO, les présidents là, entre eux, se sanctionner? Non. Et des fois même, vous voyez même...
Mais tu as oublié, il y a même un projet de limitation d'un mandat présidentiel.
C'est toujours dans le même protocole. C'est le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc, vous voyez... La limitation de mandat, on a vu des pays s'étaient opposés. Je pense que finalement, le Togo est sorti de la liste des pays qui s'y opposaient en faisant la réforme de 2019, la réforme de mai 2019, limitant le mandat présidentiel et tout. Et également, la Gambie également, dont le nouveau président a également pris des réformes qui devraient limiter le mandat. Donc, sur ce point-là, oui. Mais après... Quand la période des élections arrive, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en Guinée par exemple, avec les affaires, de quoi parlerons également du Togo, avec les affaires de troisième mandat. Vous avez vu la CEDEAO réagir? Même pas. Elle attend que des présidents en exercice modifient les constitutions pour se représenter Et vous voyez, c'est la CEDEAO, elle ne dit rien, elle attend que les conséquences viennent pour continuer à agir et à ne se prononcer que sur les symptômes d'une maladie qui a déjà gangréné tout le corps. Et on est dans le cas d'espèce, le Nigeria, vous voyez le Nigeria, le grand Nigeria, la tête d'affiche de toute la CEDEAO, qui est en élection, et on sait comment les élections s'organisent au Nigeria avec des contestations aussi. La CEDEAO attend, mais le processus est déjà très avancé, et c'est maintenant que la CEDEAO se prononce. Au Liberia, c'est la même chose. George Weah et son équipe sont également très avancés dans l'organisation des élections, et c'est maintenant que la CEDEAO demande d'aller discuter avec la classe politique et la société civile. Même chose pour le Liberia, des pays qui ont connu la guerre. La Sierra Leone, autant pour moi. Des pays qui ont connu la guerre avec des difficultés même. On a vu combien de fois des missions sont allées là-bas de bons offices pour prendre langue avec les gens. Et le président sortant, le président qui est arrivé, Manda Bio, est en train d'organiser également des élections avec des contestations déjà en interne. Et c'est maintenant que la CEDEAO dit non, on va envoyer une mission de bons offices pour aller parler avec les gens. Et généralement, ces missions-là, les conclusions, ça ne sert pratiquement à rien ou ça ne change rien. Ça maintient le processus, c'est le processus qui continue. Et après, vous allez voir, ces élections finissent d'être organisées avec des contestations. Et dans quel pays encore? Je parle du Liberia, qui avait déjà connu une guerre civile, où les armes continuent de circuler, où il y a des rébellions qui ne sont plus tellement actives, ou également Sierra Leone, où il y a également des rébellions avec des armes qui circulent dans le pays, avec un tel danger. Et vous voyez, avec l'affaire du terrorisme qui sévit, si on ajoute encore des crises politiques avec des pays qui sont instables dans la CEDEAO, est-ce que vous voyez que Mbalo, là, lui-même chez lui, qui dirige des cartels de drogue, chez lui là-bas en Guinée-Bissau, et qui ne peut même pas pacifier son pays, qui ne peut même pas s'entendre avec la classe politique, même contesté par des députés de son Assemblée nationale, qui décide de sanctionner des pays, qui cherchent des solutions innovantes pour la gestion de leur pays. Vous voyez que, est-ce que cette CEDEAO, que dirige actuellement M. Mbalo, le général, entre griffes Mbalo, peut naturellement trouver des solutions à cette sous-région en instabilité.
La CEDEAO, on n'en a pas parlé, question. Mais il y a également un pays, et pas des moindres, le Sénégal, qui connaît et qui doit connaître également une élection présidentielle prochainement, et la question se pose là-bas, si le président en exercice, Macky Sall, devra ou pourra être candidat à ces élections pour un éventuel troisième mandat. On n'en parle pas encore alors que la situation déjà commence à chauffer au Sénégal. Arrête Miaou.
Non, moi je vais parler un peu court pour dire que les Africains, je continue pas à le dire, j'ai dit qu'ils se font harakiri, c'est eux-mêmes qui sont le problème de ce qu'ils ont. Nous quoi, nous sommes notre propre problème. Je voudrais aller un peu pour dire que quelqu'un a parlé de la Libye à ce plateau.
Oui.
Quand les gens étaient en train de talonner et de chercher à détruire la Libye, à ces micros, moi j'avais toujours pris position pour Kadhafi. Il y avait des confrères qui étaient venus ici pour dire que Kadhafi c'est un dictateur, parce que d'autres ont choisi de dire qu'il est dictateur. Le problème d'Abidjan que nous avons connu récemment. Et quand on parlait de Kadhafi, combien de pays africains étaient du côté de Kadhafi, en dehors de l'Afrique du Sud, qui avait démarré par vouloir demander aux gens d'aller parer la situation en Libye, au coin autre. Ça veut dire que on est en train de tuer mon voisin. Les gens sont en train de frapper à rude coup mon voisin. Et nous faisons une ligue autour, on le laisse. L'étranger vient le terminer. Et après, on dit que parce qu'on a dit qu'il est mauvais, et nous sommes fiers. C'est ce qui s'est passé en Libye. Les conséquences, c'est ça notre terrorisme. C'est ça l'invasion du Sahel et de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est parce que les gens avaient voulu se taire, puisque Kadhafi était là. Il avait la main mise sur ses petits réseaux et il savait comment contenir. Aujourd'hui, l'Afrique d'elle-même a fait ça. Je voudrais dire que par rapport à nos élections, on a parlé de la CEDEAO. Moi, je ne sais même pas. Comme Didier l'a dit, ce que la CEDEAO fout. Nous n'allons pas être hypocrites et croire que les élections qu'on organise dans tous les pays africains, ce sont des élections africaines. Il y a un couvent dans un vrai couvent. Le couvent que nous connaissons, c'est nos pays, et c'est tout le folklore qu'on fait, que c'est la campagne. Mais le petit couvent, le vrai, l'invisible couvent est là. Et mais les présidents, comme et quand et qui, par exemple, ils veulent. Vous êtes en train de parler d'élection. Vous pensez que si le petit couvent ne veut pas de quelqu'un, il reste? À un moment donné, quand on ne voulait pas de Kampaoré, il est parti. Tout le monde savait la force, la puissance, ce que Kampaoré représentait. Mais il a fui comme un petit rat. Donc ça veut dire qu'il y a le petit couvent plus fort qui détermine tout pour l'Afrique. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certains pays, vous allez voir quelqu'un va vous dire que mais le candidat là, il est pro-tel. Ah, il est protégé par tel. Et généralement, c'est ces couvents-là qui nous sortent ce que nous avons. Quand bien même nous-mêmes, on fait l'effort de le faire, on dit que non, qu'il n'a pas gagné. Quelqu'un peut gagner même des élections, on va dire, ah là, mais écoutez, il n'a pas gagné. On a tenté d'étouffer des élections dans certains pays d'Afrique où nous avons connaissance. Les gens sont venus d'ailleurs pour torpiller des élections. Suivez-moi, même chez nous ici, des gens avaient tenté ça. Maintenant, quand les gens font des trucs comme ça et vous voyez, ça veut dire que la démocratie, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons être transparent, ça devient flou. Quand Macky Sall a pris le Sénégal, tout le monde disait que...
Bon, il a pris, il a été élu.
Oui, ben, il a pris les rênes du Sénégal. Il a été élu, il est tout. On a dit que Wade est devenu mauvais. Maintenant, nous parlons de Macky Sall. Allons-y. Il y en a d'autres qu'on nous a peinturé que c'était les bons. À côté, à l'Est, on en a parlé. Aujourd'hui, les gens disent que bon, non, les gens veulent mettre tout le nécessaire pour rester. Donc, l'Afrique... Elle, tant que nous n'allons pas changer, tant que nous-mêmes, dans notre pays ici, quand on a une réunion ou bien qu'on veut avoir une expertise, que toi, ça, tu as, on prend un expatrié, on l'amène, on dit que non, c'est lui qui doit faire. Tant que les ministres ne vont pas cesser d'amener des blancs tout le temps pour être des conseillers, pour déterminer des choses que nous-mêmes nous connaissons, qui d'autre connaît notre pays mieux que nous? Dites-moi, qui connaît le Togo? Par exemple, chez moi, dans la centrale, quand vous allez à Toa, quel blanc viendra me dire que c'est comme ça on doit développer Péwa, c'est comme ça on doit orienter Péwa. Tant que nous continuerons pas à le faire, eh bien, attendons-nous de supporter toute
la
conséquence.
Merci, merci Arim Yaou, on va évoluer quand même pour parler coopération du Togo. Je le disais, pendant ces 4 dernières années, il a été omniprésent sur beaucoup de fronts, hein, lui et son organisation, le système des Nations Unies, le PNUD, dont il a été le coordinateur. Je parle de... Aliou Dia, hein, il était là au moment où le Togo démarrait le PND. Entre temps, le PND s'est mué en feu de route gouvernementale. Aliou Dia était là. Entre temps, il fallait riposter face à la COVID-19 et aux terroristes. Aliou Dia était également à ce front-là. Mais son mandat de 4 ans est terminé. Il est en train de partir. Didier, il fait le tour des autorités pour leur présenter ses adieux.
Oui, oui, dans la coutume et dans les règles diplomatiques, c'est toujours comme ça. Quand c'est un peu comme quand vous arrivez au début de la mission, vous vous présentez aux autorités, vous prenez langue et vous déclinez votre feuille de route, si vous permettez le terme. Et donc justement, ça a été le cas pour Monsieur Aliou Dia, qui a fait 4 ans au Togo et donc qui, avant de partir, donc en train de faire le tour des autorités. Et il était déjà avec Madame le Premier ministre en fin de semaine. Mm-hmm. Et puis le vendredi, il s'est rendu également à l'Assemblée nationale pour la même cérémonie d'adieu avec la présidente de l'Assemblée nationale. C'est également l'occasion pour lui de faire le bilan de sa présence au Togo et des actions qu'il a eu à mener. Donc quand on parle de 4 ans, ça veut dire qu'il est là avant 2020. Donc avant 2020... Le programme de développement qui était là, donc Aliou Dia est le représentant résident du PNUD au Togo, donc programme des Nations Unies pour le développement. Donc le programme de développement qui était là et avec le cadre de coopération qui était là est tourné autour du PND. Et vous connaissez le PND très cher à l'ancien Premier ministre Selom Klassou.
Non, le PND est porté par le chef de l'État.
Le chef de l'État parle.
Non, non, mais il en a tellement parlé que bon, on avait l'impression.
Mais c'est son temps.
On avait l'impression que c'est lui, Monsieur PND, avec les axes, le hub et tous les autres, justement. Et donc, on en a parlé. Et finalement, Covid. Bon, d'abord, il y avait la crise politique qui était venue, saper le démarrage du PND. Et puis, il y avait les élections présidentielles qui étaient venues en 2020. Donc, avec Covid également, finalement, le PND, on ne l'a pas véritablement vu être mis en œuvre. Et après 2020, on a vu le chef de l'État et son équipe et son gouvernement ont adopté ce qui est appelé aujourd'hui feuille de route gouvernementale, qui est en quelque sorte une révision du PND et qui est en cours de mise en œuvre. Et donc le PNUD s'est aligné, et pour s'aligner sur ce programme-là de développement, ça se fait toujours dans les cadres de conventions de coopération qu'on signe avec les États. Et vous avez vu la dernière fois, le système des Nations Unies au Togo a signé ce nouveau cadre de coopération de développement donc avec le Togo. Et naturellement, le document avait été paraphé justement par Monsieur Ali Oudia, qui reste l'un de ses derniers actes majeurs qu'il pose au Togo avant de partir. Donc, on dira qu'il a justement apporté ce qu'il a pu faire avec le Togo, sénégalais de son état, mais pour avoir passé 4 ans au Togo, je pense qu'il a commencé par aimer notre pays, comme lui-même il le dit, portera le Togo dans son cœur. C'est d'ailleurs ce que tous les diplomates disent, donc ça veut dire que le Togo est un pays très accueillant.
Merci. Ali Oudia, le pneu de tout le système des Nations Unies, qui ont signé avec le Togo ce nouveau cadre de partenariat évalué à autour de 150 milliards. Dans le même temps, il se mène les consultations pour l'élaboration d'un nouveau cadre de partenariat, toujours avec la Banque mondiale. Jacques, c'est dans ce cadre que l'Assemblée nationale a rencontré la représentation de la Banque mondiale pour toute une journée d'échange. Un petit mot là-dessus, Jacques.
Non, je crois que ce qui est intéressant par rapport à ces partenariats aujourd'hui, le constat, c'est que on essaie d'associer et d'impliquer maintenant les institutions. Parce que nous avons vu, la Banque mondiale était chez le Premier ministre, après son niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que peut-être c'est un souci de transparence par rapport à la gestion de ces projets, que ces institutions-là sont en train de rencontrer les responsables des institutions également au Togo. C'est très bien. L'essentiel est c'est que on puisse vraiment mettre en branle ces projets-là, qu'on puisse concrétiser effectivement ces projets-là au sein de nos populations. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est que Arim Yao l'a dit tout au début de l'émission, c'est que quand on va aller dans certaines localités, qu'on puisse trouver effectivement de l'eau en abondance pour pouvoir boire, et les localités qui sont en train de traverser des moments d'insécurité, qu'on puisse effectivement mettre en branle également ces projets-là d'exécution dans ces localités, et que les populations se sentent également
tracer de bonnes pistes carrossables pour permettre aux producteurs agricoles d'évacuer leur production, construire des écoles, des centres de santé, amener l'électricité, les commodités de la vie un peu partout au Togo. Cela aussi participe de la justice sociale.
Vous savez, ça, un gouvernement, c'est comme une femme. Hein. Elle a dit que la femme a besoin qu'on puisse l'écouter. Même si on n'a pas les moyens de la satisfaire, dès que vous avez le temps pour écouter une femme, je vous dis, la femme est satisfaite à 90%.
Le gouvernement ou plutôt le peuple?
Non, du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le peuple a besoin que le gouvernement puisse l'écouter. C'est ce que le peuple veut aujourd'hui. Si le gouvernement écoute aujourd'hui le peuple et que le gouvernement n'a même pas les moyens pour le moment de satisfaire ce peuple, le fait de l'écouter déjà, ça diminue un peu la tension au sein effectivement des populations. Donc le plus c'est que ces projets aujourd'hui qu'on est en train de rencontrer ces institutions autres, qu'on puisse vraiment les mettre en pratique et que la population puisse se sentir effectivement qu'ils sont fiers d'avoir ces dirigeants qui pensent effectivement à leur développement, qui pensent également à leur bien-être.
Et que la population a la certitude de se retrouver au centre des préoccupations des décideurs. Ces populations, dont les producteurs agricoles, avec le feuilleton du FOPAT, dont l'épisode 4 va se tenir à Kpewa. Arim Yao, comme c'est toi qui connais mieux Kpewa entre nous ici, eh bien, le FOPAT 2023, ce sera en fin de semaine dans la région centrale. Région centrale que le journal Togo Matin présente comme la région centrale qui dispose de multiples atouts pour notre agriculture.
Oui, tout à fait. Les gens peut-être font la confusion. La région centrale, c'est une grande région agricole. Quand vous avez des zones comme Tindiassi, vous avez des zones comme l'Adélé,
la plaine du Mont,
les zones comme l'Adélé où beaucoup de choses se font. Dans l'Adélé, on fait également du café cacao avec les nouvelles orientations agricoles du pays. Donc, c'est une région très vaste, où les gens ne vivent que pratiquement de l'agriculture, quand bien même les gens ont en tête que Sokoré, c'est une ville commerciale. Au-delà, vous allez à Tchamba, vous allez à Sotoubois, vous allez dans les zones comme Fazao, c'est du sérieux travail agricole que les gens font et c'est de ça effectivement qu'ils vivent. Donc la région centrale, comme toutes les autres régions qui ont des atouts liés à l'agriculture, va la semaine, cette semaine, à partir de jeudi, accueillir ce forum qui effectivement a sa quatrième édition. Et la boucle sera bouclée probablement avec la région de la Cara. Et ce seraient les mêmes choses, les mêmes orientations. Mais ça rassure les agriculteurs beaucoup plus maintenant parce qu'on est en train de parler des agriculteurs et non des paysans. Parce que la dimension qu'on donne aujourd'hui à la chose est beaucoup plus une vision industrielle où les gens vont faire de l'agriculture. C'est de rente, on dit, je crois. L'agriculture qui doit leur...
De rente.
Qui doit leur permettre de se prendre en charge. Et à partir de l'élevage...
Passer de subsistance à une agriculture qui produit, qui enrichisse
ses acteurs. Donc c'est ça. Et donc ce qui est particulier par rapport à ces rencontres, c'est la présence effective du premier des Togolais. Et quand il y va, ça permet de porter, comme vous venez de le dire tout à l'heure, l'assurance dans le cœur de tout un chacun. Et quand le chef de l'État passe quelque part et il écoute les gens et dit quelque chose, je crois que cela ressemble à une parole d'évangile. Parce que c'est le premier de nous tous. Après Dieu, pour toutes les nations, c'est le chef de l'État. Parce que c'est lui qui prend les grandes orientations, c'est lui qui oriente. Et s'il va lui-même et ne se fait pas compter l'événement, ça veut dire que quelque part, on est en train d'être amené à aller d'une autre dimension et à être conscient et à prendre les choses à bras le corps. Diakouti a dit que l'essentiel, c'est que les populations sentent que quelqu'un, quelque part, les écoute. Mm-hmm. Mais moi, je me dis que si on écoute une fois, on écoute deux fois, et finalement, les gens ne voient pas le concret, ils finiront par dire un jour que, mais qu'est-ce que cela nous sert encore de nous faire redire, de nous faire dire les mêmes choses. Donc, vivement, que ce qui se fait aujourd'hui et qui démontre la bonne foi, la bonne volonté du gouvernement, que cela rentre dans
Merci,
la réalité.
Il est 12h, passé de 3 minutes. Nous suspendons nos échanges pendant que les auditeurs se préparent pour entrer en ligne sur les deux numéros que vous connaissez déjà certainement, mais que je vais faire le devoir de vous rappeler, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75, juste le temps que Michel transmette les messages de Canal FM à nos partenaires. 93.5. Nous sommes la journée mondiale de la justice sociale. Nous avons parlé de la presse togolaise en mutation. Nous avons parlé du Togo qui était aux rencontres internationales à Addis Abeba et à Munich. On a terminé par quelques aspects de la coopération de notre pays avec nos partenaires, certains de nos partenaires. À présent, la parole est à vous. Bonjour.
Bonjour, Sam.
Oui.
Comment vous allez?
Ça va, c'est Patrick.
Francis, depuis Badago.
Ok, nous écoutons.
Oui, vous avez parlé de la justice sociale.
C'est la journée mondiale de la justice sociale.
Oui, c'est une bonne chose. Et nous sommes aussi dans un mandat social. Sera, je voudrais passer par votre antenne pour supplier le gouvernement à penser aux personnes en situation de handicap.
Mm-hmm.
Ceux qui ont passé le concours, les personnes en situation de handicap, c'est difficile pour nous, hein, de joindre les deux bouts, très très difficile pour nous.
Mm-hmm.
Que le gouvernement nous aide à ce niveau.
Mm-hmm.
Pour que nous aussi nous puissions retirer un peu socialement. Quoi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et meilleure attention à l'endroit des personnes en situation de handicap. Merci à vous, premier auditeur qui lançait le débat et qui passait le témoin au suivant. Bonjour.
Bonjour, Sas.
Oui.
C'est Mawena.
Mawena, depuis Agoué.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Oui, vous avez parlé de la presse en mutation.
Oui.
J'ai aussi une doléance ou bien une critique un peu négative à l'endroit de la presse togolaise,
mm-hmm,
de façon générale, et des journalistes de Canal FM en particulier aussi.
Allez-y.
C'est en toute humilité que je voudrais le dire. Hein, ça,
allez-y,
si ça
allez-y. Allez-y là.
Blessé, excusez-moi d'aller.
Ayez le courage d'aller de l'avant, cher ami.
Alors, ok. Je voudrais dire que quand vous êtes un agriculteur, un paysan, vous avez des outils bien aiguisés pour votre travail. Mais ce que nous constatons aussi quelquefois, c'est que nos journalistes s'expriment très mal en français. Mmh. Des accords qui ne sont pas à leur place, des verbes qui ne sont pas bien conjugués, et tout ça, quelquefois, ça heurte les tympans aussi des auditeurs que nous sommes. Mmh. Donc la doléance, c'est que les journalistes ayant, par exemple, la langue française comme outil de travail, il faudrait qu'ils travaillent à perfectionner leur expression en français, mmh. hein, et surtout que ce soit agréable, surtout que vous êtes aujourd'hui écoutés partout dans le monde. Je crois que c'est un effort que nous devons faire pour assainir le travail dans ce sens-là aussi.
Merci.
Donc, toutes mes excuses et bonne journée pour vous, à vous.
Merci. Je disais tantôt que nous-mêmes, nous avons des défis à relever en termes de plus de professionnalisation, de spécialisation. Ça se retrouvait un peu dans cela. Merci de nous exhorter à aller de l'avant. Le suivant, alors, bonjour.
Bonjour, Saf. Bonjour, monsieur Canaro. Bonjour, monsieur Dakouti. Bonjour, Didier.
Didier?
Oui.
Mm-hmm, nous écoutons.
Bon, moi, depuis que le ministre Ayouadan dit que nous, Togolais, nous ne sommes pas liés, nous ne savons pas liés, qu'il est le seul agrégé avec le gouvernement, ça va lire. J'attendais impatiemment l'arrivée de notre grand journaliste Canaro pour qu'il puisse nous expliquer vraiment ce qui fait, de quoi dit le rapport, comme nous ne savons pas liés là.
Le rapport de la Cour des comptes.
La Cour des comptes, là, comme lui, il est le grand patron de CONAP, et puis nous, les ministres ne sont pas libres. Peut-être lui pourrait bien nous expliquer, mais on n'en a pas parlé de ça aujourd'hui.
Mais Didier, je ne sais pas si Tchagnao a le chapeau d'aller, de jouer à un troisième porte-parole du gouvernement qui en a déjà deux, Didier.
Ah, peut-être on va donner le troisième pour M. Tchagnao.
Ok, faites les plaidoyers. S'il est nommé, on avisera, oui.
Je voulais poser une idée à M. Dakouti. Lorsque les trois pays-là réussiront à avoir leur pseudo-fédération, il y aura des règlements. Il va falloir respecter les règlements de cette fédération. Lorsque nous-mêmes, citoyens de la CEDEAO et gouvernement, nous affaiblissons nos insistances régionales, comment est-ce qu'il peut fonctionner? Regardez le comportement du Togo depuis la création de la CEDEAO, depuis 2007. On a quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale. On le bloque dans un autre pays. On cherche son agent pour remplacer. On fait des élections. Le Togo n'a pas signé le protocole additionnel de la CEDEAO. Le Togo s'acoquine avec les gens qui font les coups d'État pour soi-disant médiation, pour leur politique intérieure. Et c'est son comportement qui peut renforcer notre institution. Regardez ce qu'Alpha Condé est venu faire ici. Il a fait parce qu'il y a un problème ici en profitant pour pouvoir son troisième mandat. Où est le rôle néfaste que le Togo même joue dans ces institutions, dans la stabilisation de ces institutions? Si les institutions étaient fortes, je penserais pas que quelqu'un pourrait se lever puis faire des bêtises qu'ils font. Je crois qu'il faut que nous voyons nos comportements à l'intérieur du pays du Togo, ce que nous fabriquons, ce que nous faisons pour que la CEDEAO puisse être forte. Je vous remercie, monsieur.
C'est nous qui vous remercions pour votre fidélité d'écoute et d'intervention au Club de la Presse. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
C'est monsieur?
C'est monsieur Joseph.
Pardon?
C'est monsieur Joseph, conducteur de taxi.
Josias.
Joseph. Oui.
Ah, ok. Nous écoutons.
Oui, c'est pour remercier tous les journalistes qui sont là aujourd'hui.
Mm-hmm.
Sans vous mentir, j'ai adoré l'émission d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Ils ont dit toute la vérité qu'il faut.
Mm-hmm.
Moi, je voulais aborder le côté du Mali.
Oui.
Voilà que le Mali est en transition. Au lieu que l'Union africaine l'aide à sa sortie, ils sont là encore à braver des sanctions à son encontre.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire, nous les Africains? Alors que, voyons le cas de la France. La France est en train de livrer des blindés, plus de 25 blindés à l'Ukraine. Alors que ces pays dont il a colonisé sont en souffrance. Elle n'a même pas envoyé aucun.
Mm-hmm.
Et voilà qu'il est en train d'avancer pour ce pays-là.
Mais la France avait des matériels militaires au Mali, au Burkina, mais...
Il ne nous a pas donné.
Uh-huh.
Ils les ont amenés pour leur propre mission.
Et la preuve,
pour nous intimider.
La preuve, il les a emportés quand ces pays n'en voulaient plus.
La preuve, quand il les a emportés.
Mm-hmm.
Et maintenant, tout ça ne nous fait pas réveiller d'esprit pour qu'on puisse changer de mentalité. Et nous sommes encore à braver des sanctions contre ces pays-là.
Merci, cher ami.
Il faut que nos liens se réveillent.
Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Vous qui faites écouter le Club La Presse à bord de votre taxi pour vos passagers, n'est-ce pas? Mais j'espère que vous êtes quand même bon conducteur, hein. Merci. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Monsieur
Nyamavo.
Oui, oui, vraiment, la situation dans le nord du pays, là, ça doit vraiment nous interpeller.
Mm-hmm.
Comme l'a dit un auditeur, là, avait posé cette question la dernière fois, un gouvernement qui mobilise les fonds pour lutter contre le djihadisme et puis un autre qui dilapide les fonds de l'État. Il faut qu'il passe la dernière fois, il y a sujet à la télé, les Chinois en train de faire des actions pour que les gens vivent paisiblement et retournent dans leur village.
Non, monsieur Nyamavo, monsieur Nyamavo, monsieur Nyamavo, nous avions parlé des dons que la Chine avait fait pour au bénéfice des populations. Il faut juste placer les choses dans leur contexte. Et un gouvernement qui dilapide, un gouvernement qui, il faut pas créer de la confusion sur des sujets aussi délicats, s'il vous plaît.
Oui, je ne fais pas la confusion. Je voudrais solliciter si l'État peut négocier. L'aide chinoise, comme les autres pays, demande l'aide de la Russie pour qu'on puisse booster les djihadistes hors de notre territoire.
Okay.
Sinon, bon, s'il faut aborder pour le gouvernement, moi j'ai vu que finalement, ils nous conduisent comme ça, c'est la politique de l'engoulevent, quoi, mm-hmm. avant l'IPO. Ils nous trompent, ils nous mettent dans la forêt peu à peu.
Mm-hmm.
Merci.
Je vous en prie, M. Nyamavo. Soyez rassurés, liberté d'expression totale. Au club, la presse, d'autant plus que de grandes oreilles nous écoutent. Le suivant, bonjour.
Chance, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Allô?
Comment vous allez?
Ah, comme vous nous écoutez.
Ah, je salue tous les plateaux.
Mm-hmm.
Bon, c'est les Anglais, c'est les
Anglais. Oui.
Bon, la réunion de la Suisse a dit pas de temps, elle est ici. Bon, je voudrais parler, parce qu'avec la réunion, là, il y avait des questions de la Nations Unies. C'est vraiment, c'était une honte, hein, excusez-moi. Bon, vous voyez, il y avait Boutros d'Italie, il y avait Kofi Annan, mais c'est des gens qui ont travaillé pour impacter le monde. Peut-être que c'était généraux, aujourd'hui, ils ne sont pas la paix à leur âme, mais tout monsieur qui est avec le fait du capitaine, mais ne peut pas dire ce qui amène les djihadistes à faire des coups d'État. Mais c'est une honte de le fait de ça, et tout le long de l'ONU, là.
Monsieur Senghor, hein? Nous vous informons, vous vous faites votre propre religion.
Ça dit,
nous vous informons et vous en tirez les conclusions comme vous le souhaitez.
Mais en principe, vous les journalistes, vous devez faire un peu pour essayer de discuter. Vous les journalistes là-bas, vous êtes comme des pasteurs. Des gens de la vérité qui se le disent.
L'ami Senghor, hein, ne nous demandez pas plus que nous ne pouvons vous offrir.
Ah,
nous sommes humbles, hein, nous connaissons nos limites. Ne nous demandez pas plus que nous ne pouvons vous offrir. Nous faisons déjà l'effort de vous informer. Oui, le suivant, bonjour.
Oui, M. Stas, bonjour.
Oui, Sylvain.
Oui. Effectivement, il ne faut pas insister seulement des journées. Il faut que nos justices soient sociales. Ce n'est pas seulement sur le papier, situer des journées sur le papier. Les gens ont situé cette journée pour que cette justice soit sociale pour le peuple. Et puis la CEDEAO, on n'a qu'à s'apprendre à elle-même. Nous, on n'a rien à foutre avec cette CEDEAO-là. Merci.
Je vous en prie. À propos, la justice sociale, ce n'est pas seulement pour les Blancs, hein, ce n'est pas seulement pour les États. Jacques l'a dit, jusque dans nos maisons, comment est-ce que nous nous comportons à l'endroit des moins nantis que nous, au service, à la maison, dans nos quartiers? Chacun devrait se sentir interpellé. Le suivant? Ok. Un auditeur qui entre en ligne. Oui, bonjour, l'ami.
Allô, c'est la radio FM, là.
Oui, oui.
Je vais participer.
Oui, madame?
Allô?
Oui, madame.
C'est la radio, non?
Vous êtes sur Canal FM, au club de la presse.
Oui, je voulais donner un message. Et je voulais donner carton vert au CHL de Dakom.
Carton vert à qui?
Hein?
Au CHL d'Apaon.
Oui.
Okay. Ils ont fait quoi pour mériter ce carton vert?
Pardon?
Qu'est-ce qui vaut au CHL d'Apaon ce carton vert?
Oui. On dit les gens cherchent le travail, quoi.
Mm-hmm.
on leur donne le travail. C'est de Macron là que je vais parler. Mais je ne comprends pas beaucoup le français. Je vais parler au sujet de l'accouchement.
Je
vais nous faire refuser l'accoucher. Moi-même, j'ai suivi ça. Pour l'accoucher, il t'abandonne sur le lit. Il souffre avant d'accoucher.
Ok.
Et ils sont assis pour s'occuper de leur portable en train de poser. Alors que tu es en train de souffrir sur le lit. Des fois, même tu peux donner la vie mortellement.
Oui. Ok, ça doit faire chaud au cœur.
Un de mes voisins qui voulait accoucher.
Oui.
La femme là, super jusqu'à. Ils ont tiré l'enfant à sortir. L'enfant était handicapé. Tous les jours, on va pour mater l'enfant. Alors que c'est pas bien.
Ok. Bon.
Il y a beaucoup de
merci, madame. La technique ne nous permet pas de bien la comprendre. Mais je note quand même, carton vert au CHR d'Apaon, ça doit leur faire chaud au cœur. Parce que le personnel médical, nous ne sommes pas toujours, nous n'avons pas toujours le temps de valoriser les prouesses que ces femmes et ces hommes réalisent dans des conditions pas toujours très bonnes. Ce carton vert doit leur faire chaud au cœur.
93.5.
Merci à vous les auditrices et auditeurs. Vous nous permettez d'aborder d'autres pans de la question, mais nous vous prions juste, notre devoir, notre travail, c'est de vous informer. C'est en même temps vous qui nous reprochez de prendre parti, ne nous demandez pas de conclure. Nous vous apportons toutes les informations les plus diverses et chacun s'en fera sa propre opinion, n'est-ce pas Jacques Jacouti?
Je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est Nyamavo qui a posé la question sur, il a parlé du Mali, du Burkina et de la Guinée-Conakry par rapport à la fusion qu'ils veulent faire. Et je crois que, vous savez, comme vous l'avez si bien dit, nous n'avons pas la connaissance infuse, mais ce que nous savons, ce qui est important, s'ils mettent ce qu'ils ont dit en branle. Vous savez, vous prenez par exemple le port de Conakry. Le port de Conakry peut aider le Burkina, peut aider également le Mali. Et vous savez, ça va créer des problèmes au port de Lomé, au port également d'Abidjan.
Oui. Donc, je crois et de Tema aussi au Ghana.
Donc, je crois que
même de Cotonou ici au Bénin.
Donc, oui. Le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont intérêt à ce que, effectivement, on puisse éviter ça. Si vraiment ils laissent ça et ça se forme, je vous dis que nous aurons des problèmes. Vous savez, la plupart des conteneurs qui quitte le Togo pour le Mali, pour le Burkina, je vous dis, c'est vraiment un grand volume. Donc, moi, je demande humblement, comme le président togolais l'a si bien fait, dans la libération de ces militaires au Burkina, il faudrait effectivement qu'on mette en branle aujourd'hui vraiment la médiation.
Mais je pense que ça participe à une meilleure intégration de l'Afrique de l'Ouest. Il y a bon nombre de pays qui sont déjà membres du Conseil de l'Entente. Il y a l'UEMOA, il y a la CEDEAO. Bon, peut-être un regroupement de ces pays ne viendra que conforter cette intégration
sous-régionale. Mais pour ça, je vous dis, nous allons souffrir, surtout sur le port. Il faut faire très attention. Si on ne sait pas faire et que le Mali, aujourd'hui, aille chercher ses marchandises en Guinée-Conakry, le Togo aura des problèmes, le Ghana et le Bénin également, la Côte d'Ivoire et autres. Moi, je crois que le Togo a intérêt, la Côte d'Ivoire a intérêt, le Bénin également a intérêt à ce qu'effectivement ils puissent étouffer ce problème-là dans le fin. Sinon, si on ne sait pas faire et les gens là s'entendent, je vous dis, nous aurons vraiment des problèmes. Nous aurons de nombreux problèmes.
Dans ce cas, je crois que ces pays gagneraient à diversifier davantage.
Oui, c'est une bonne chose. C'est bon. Mais regardez le côté économique également des autres pays. Vous voyez actuellement le problème de djihadisme que nous sommes en train de vivre dans les pays. Et s'il faut qu'on nous asphyxie également sur le côté économique, vous voyez que nous aurons des problèmes.
Mais ces pays-là ont été asphyxiés quand des sanctions ont été prises contre eux.
Mais
carton, vous
non, l'émission, non, je n'ai pas de carton, mais je voulais inviter les parents qui sont à l'écoute également. Il y a un phénomène qui se développe dans les foyers aujourd'hui, auquel je voulais inviter les parents à être vigilants. Il y a eu 3 cas déjà, que personnellement j'ai vu un seul cas, mais j'ai appris qu'il y a 3 cas. Vous savez, les enfants mettent les androïdes, les portables, dans les chambres des parents. Lorsque le papa et la maman s'amusent, les enfants filment.
Ah bon?
Oui, les enfants filment ce que papa et maman font comme amusement. Et après, ces enfants la sortent, ils vont jouer ce film-là au niveau de leurs autres collègues. Il y a une école qui a arrêté un, et l'enfant était en train de jouer la vidéo de l'amusement de papa et de maman. On les a surpris. Et j'ai appris qu'il y a également trois comme ça. Donc, parents, soyez vigilants. Soyez vigilants lorsque vous voulez
des
vous coucher.
Des enfants qui enregistrent leurs parents à leur insu.
Je ne voulais pas appeler le nom, mais parents que nous sommes, nous savons, vous savez ce que je voulais dire. Je savais ce que vous voulez dire par amusement. Donc, faites attention. Lorsque vous voulez vous coucher la nuit, prenez le soin de vérifier vos chambres.
Nos enfants deviennent espions.
Ah, espions.
Prenez pas le seulement chambre. Le ciel de nuit à
oui. espionner. Faites attention de vérifier qu'il n'y a pas un portable quelque part.
Je voulais donner un carton vert aux militaires togolais qui se démerdent dans la région des savanes pour faire ce qui est à leur pouvoir actuellement pour sécuriser les populations de là-bas. On sait que c'est pas facile et j'ai un coup de cœur pour eux, pour les confrères journalistes également de la région qui sont obligés de se transporter sur des fronts pour collecter quelques informations ici et là. Beaucoup de courage à ces deux corps là-bas, les militaires. Quand je dis les militaires, c'est trop réducteur. Les forces de défense et de sécurité et les journalistes de la région de Savane qui se battent les uns pour sécuriser, les autres pour informer.
Merci. Harry Miochonyaou.
Non, pas de carton, sauf que je voulais, comme nous sommes à la journée internationale de la justice sociale
que les gens donnent de l'argent,
attirer l'attention de ceux-là qui sont nantis, à savoir vraiment ouvrir la main.
Merci, la semaine est lancée. Le Club de la Presse vous retrouve demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.